gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bizarre.
Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien toujours à l'écoute de Radio Canu, évidemment, sur le 102.2, sur la bande FM, évidemment, et sur radiocanu.org, partout ailleurs. Et bien, c'est le retour de la causerie qui n'est plus confinée.
On est déconfiné.
Retour dans les studios.
C'est ça.
Alors, on vous explique un petit peu à quoi ça ressemble. On a du film cellophane sur les micros.
Bon, on a mis une capote au micro. Parce que c'est comme pour tout, en fait, quand on a un risque de contamination, c'est bien de se protéger.
C'est tout à fait
ça. Sortez couvert.
Et la voix un peu plus étouffée de Fab, c'est parce qu'il porte un masque
oui,
en plus.
J'ai un joli masque blanc.
J'ai un joli masque. Enfin bon. Donc, on fait quand même les rappels vite fait. Si on n'a pas perdu quand même toutes ces habitudes-là, même en mode confiné. Donc, si vous voulez nous joindre, c'est toujours.
lacauseriecanu@gmail.com. Je suis désolé, moi, ce que j'avais oublié, c'est qu'il ne faut pas parler sur le côté du micro. Donc, je t'ai parlé en face.
Oui, c'est mieux. Voilà. C'est plus mieux.
Et ça, c'est le mail. Et tu peux aussi aller sur le blog. Et Jean-Yves va te donner le blog.
Mais bien évidemment, pour écouter les podcasts des émissions confinées et autres, c'est donc à blogs.radiocanu.org/lacauserie.
C'est ça.
Et vous retrouvez aussi les podcasts sur des plateformes musicales, etc., etc. Parce que, évidemment, notre conviction et en tout cas notre objectif n'a pas changé d'avant le confinement d'un jour.
Dominer le monde.
Nous dominerons le monde.
Évidemment. C'est un objectif tout à fait réalisable en plus.
Mais bien voilà. Évidemment, pourquoi on le laisserait à d'autres enfin.
Donc voilà. Et quand même, juste encore une fois, remercier ceux qui ont permis que vous écoutiez et vous entendiez la causerie ces 9 dernières semaines.
Ouais.
C'est ça, hein, je ne me trompe pas, je crois que ça fait 8 ou 9. Voilà, parce que c'était un sacré boulot et que nous on a trouvé ça vachement bien, qu'il y a plein de radios associatives qui n'ont pas pu faire ça.
Oui.
Et donc c'est cool, et voilà, donc un grand merci, un big up comme diraient
encore
les copains des reggae-man que vous avez entendu toute la journée. Encore une fois, et ça peut vous paraître comme ça, on le dit beaucoup, mais en fait c'est une démonstration que l'autogestion ça marche quand même. Et ça, faudrait pas l'oublier, c'est que Radio Canu c'est autogéré, il n'y a pas de salariés. Et malgré ça, en fait, dans une période pandémique, il y a des gens qui ont trouvé des solutions pour que votre radio existe, qu'elle puisse vous informer, qu'elle puisse passer des messages différents de ce que vous entendiez ailleurs. Oui, parce que BFM, ça va bien 3 minutes, hein, mais même pas 3 minutes. Ça va bien 3 secondes. On pourrait enlever cette chaîne, non ? Voilà.
Oh.
Faisons
pas les basiques.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, on sait qu'on est une voix différente dans l'univers radiophonique, et c'est bien qu'elle ait pu exister, cette voix, et voilà. Donc du coup, ça, c'était vachement cool et vachement bien.
Évidemment, voilà. Et puis nous, par ce mode confiné, on a pu aussi refaire des émissions avec la Marseillaise au Jonathan.
Oh, donc ben oui.
Donc on était, enfin voilà, donc c'est aussi intéressant parce que ça a aussi permis des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement et qui vont nourrir finalement aussi l'après-confinement, en tout cas de notre point de vue. Donc c'est, enfin voilà,
ben,
c'est...
Oui, parce que pire, c'est que dans l'avenir, on s'est dit, on pourrait continuer à avoir un lien avec ces outils technologiques qui nous permettent bah, d'avoir, oui, y compris quelqu'un qui était à Marseille avec nous.
C'est ça.
Vous voyez, c'est un petit peu un truc, voilà.
Non, c'est incroyable, hein, la technologie. Hein.
Ouais, mais il y a des émissions, hein, comme ça, qui ont déjà commencé. Moi, je pense au Petit Bazar qui est passé hier, où maintenant ils sont...
Ah bah, ils sont en 3 ou 4 à être dans des coins différents.
Presque du monde, mais on ne dira pas tout. Et voilà, et du coup, c'est intéressant, en fait, de voir que bah, c'est des super solutions et que bah, peut-être qu'on se le refusait avant et que ça nous a contraints à le faire et que maintenant, on se dit, bah, c'est une bonne idée. Voilà, donc je trouve que c'est bien, il faut trouver du positif dans le négatif. Non, ça c'est pas bien, ça s'appelle la psychologie positive, c'est mal, j'en ai déjà parlé. Voilà.
Voilà. Bah, ce soir, donc, ouais, on a oublié de dire, on est que deux dans le studio, vous l'aurez remarqué, vous l'aurez entendu. On en profite pour faire un petit coucou à celles et ceux qui ne sont pas là ce soir.
Alors, par exemple, MK.
MK, Clara, Jonathan.
Voilà.
Et bien voilà. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est avant d'attaquer, parce que ce soir, c'est Fab qui tient le crachoir.
Bah, on va d'abord vous déprimer à mort avec une chanson qui fait 5 minutes 30. Et si t'arrives au bout de la chanson, tu peux écouter la causerie. Voilà.
Et on ne vous dira pas qui a choisi ce titre.
N'est-ce pas, Jean-Yves? Allez, musique.
Et on dit évidemment musique. Et à tout de suite.
Jamais trouvé, y'en a qui croient en Dieu, moi je crois en rien. On est pour crever, tu parles d'un putain de destin. Alcoolique par nécessité, l'alcool fait des ravages et y'a pas d'âge pour en crever. Toujours affolé, le coma éthylique, parce que je connais la fin et je sais qu'elle est tragique. Y'a mille façons de canner, mille façons de se tuer. La mort, soit tu l'attends, soit tu vas la chercher. Soit tu fais ce qu'il faut, mais faut pas te louper. Soit tu tiens pépère en espérant qu'elle t'ait oublié. On est tous condamnés, personne n'est éternel. La vie c'est une MST mortelle. Forcément trauma, on sortit de coma. Quand tu t'aperçois que tout ça se finit dans une caisse en bois. Un crabe dans le buffet, un joli cercueil. Un connard de prêtre pour venir ouvrir sa gueule. Un putain de VRP dans le commerce de la foi. T'étonne pas s'il parle plus de Jésus que de toi. Il causera de péché et de satanisme. Mais y'a toujours des gosses qui perdent leur pucelage au catéchisme. Y'a pas de solution, aucune religion n'est bonne à mes yeux. Pas plus qu'à te barbu dans les cieux. Pour ces conneries, mec j'suis trop vieux, j'crois plus au Père Noël. Alors je vais pas croire en Dieu, ça commence par des ovaires. Et une paire de burnes, ça finit 6 pieds sous terre. Ou dans une urne, on m'a toujours dit, faut prendre la vie du bon côté. Ouais mais ce putain de côté, je l'ai jamais trouvé. Y'en a qui croient en Dieu, moi je crois en rien. On est pour crever, tu parles d'un putain de destin. Alcoolique par nécessité, l'alcool fait des ravages et y'a pas d'âge pour en crever. Toujours affolé, le coma éthylique, parce que je connais la fin et je sais qu'elle est tragique. Sans alcool, la fête est plus folle, non sans déconner. Ah ouais, mon cul c'est du KFC. Le médecin m'a dit, faudrait que j'arrête, mec, je m'en bats les steaks. Depuis que j'ai le foie gros comme une pastèque, j'ai essayé de changer. La sobriété c'est bien, mais j'ai mes mains qui se mettent à trembler. J'ai les gammes AGT qui montent en flèche. Pastis ou eau de vie, je vis d'alcool et d'eau fraîche. C'est la dèche dans l'ivresse, je ressens que dalle. Avant c'était pour être bien, maintenant c'est pour plus être mal. Je suis morose quand j'ai pas ma dose. Et quand on me dit que je picole trop, je dis qu'il faut bien mourir de quelque chose. Depuis que je suis minot, je me mets minable. Je sais c'est pas sérieux, alors mets-moi de formidable. L'alcoolisme, ma vie, mon drame. Et si je bois comme un trou, c'est pour pas m'en faire un dans le crâne.
Une vie, c'est comme un tunnel. Et chacun son petit tunnel. Mais au bout du tunnel, il n'y a même pas de lumière. Ouais, il n'y a plus rien. Même la mémoire se décompose avant la fin. Les vieux le savent bien. Une petite vie, des petites économies, une petite retraite, et puis une petite tombe. Et tout ça, ça ne sera rien, strictement rien.
Je veux pas mourir dans une fusillade, mais dans mon lit ou au bout d'une... Cordman, je suis mon pire ennemi. Pas destiné à la Biggie. Si c'est la France, alors pète pas plus haut que ton baggy.
y'a un temps pour tout et surtout pour partir. Parce que je crois qu'il y a rien de pire qu'un rappeur qui a plus rien à dire. À mon enterrement, ils diront que j'étais le plus fort. Mais tu sais, c'est comme ça, on aime bien sucer les morts. Autour de mon trou, tout le crew réunit, le Doc Ferguson, le fou furieux et Freddy. Y'aura tout le monde, même ceux qui sont partis. Regarde bien dans un coin, tu verras Danny. Tonton Denis bourré comme d'hab. Quand on supporte mal le deuil, on se met minable. Et puis Hubert avec son masque de catcheur. S'il y a 40 bonhommes, je veux voir 40 paires d'aviateurs. Y'aura ma femme et les petits, le cœur meurtri, mais avec la dignité. Et Kennedy Lady, dis-leur que je suis parti en héros, même si je me suis vautré comme une merde au volant de ma Fuego. Pour le cortège, une sex corbillard. Et je vais être enterré avec 10 litres de Valstar. Sur ma pierre tombale, deux ou trois groupies en pleurs. Mon épitaphe, si j'y un putain de rappeur. On a toujours dit, faut prendre la vie du bon côté. Ouais, mais ce putain de côté, je l'ai jamais trouvé. Y'en a qui croient en Dieu, moi je crois en rien. On est pour crever, tu parles d'un putain de destin. Alcoolique par nécessité. L'alcool fait des ravages et y'a pas d'âge pour en crever. Toujours affolé, le coma. Et Tilly, parce que je connais la fin et je sais qu'elle est tragique.
Et vous êtes de retour à la causerie, évidemment, toujours sur Radio Canu, et on vient de s'écouter un titre de MC Circulaire, et le titre c'est Pierre Tombale.
Alors, moi j'aime beaucoup. C'est sombre, mais c'est beau.
Ah mais moi j'aime beaucoup, enfin je l'ai découvert, tiens je fais un petit big up moi aussi, tiens, à Hervé, je sais pas du tout s'il écoute, mais en tout cas c'est lui qui m'a fait découvrir, et c'est un rappeur de la campagne en fait, et je trouve que c'est hyper intéressant, ses textes, et puis c'est, oui c'est du réalisme, et c'est pas... Il remercie pas Dieu, il remercie pas la daronne, il remercie rien, enfin c'est juste du réalisme pur, cru, sûrement un peu glauque, mais est-ce que la vie finalement c'est pas un peu tragique quoi. Enfin,
des ovaires au cimetière.
c'est ça. Et ben on va quand même prendre, enfin on va quand même donner un petit sens à cette émission, n'est-ce pas?
Oui, parce que quand même ce serait mieux qu'elle ait un sens.
Oui, quand même. C'est plus mieux, comme on dit, n'est-ce pas?
Ouais.
Eh ben, c'est toi, Fab. Tu tiens le crachoir ce soir et tu vas commencer avec un sujet autour de ce confinement et tout ce qui est un peu autour, c'est ça?
Ouais. Je vais pas refaire l'émission qu'on avait déjà faite autour du début du confinement, mais en fait, je me suis dit, il est temps quand même qu'on se pose des questions sur la période qu'on a traversée et la façon dont on l'a traversée, en fait. Hein. On traverse une période assez étrange. Elle correspond pas du tout à nos habitudes. Encore moins nos envies, enfin j'espère, à part quelques masochistes, et je n'ai rien contre les masochistes,
c'est ce que
mais simplement
dire.
Ce ne sont pas mes envies. Parce que honnêtement, avoir la mort qui plane autour de nous n'a pas grand chose d'intéressant et de vraiment positif en réalité, et on se rend compte que même la perte de proches, c'est aussi quelque chose qu'on vit et qu'on vit difficilement. Et le degré de stress, en fait, chez tout le monde, il est assez élevé. Alors, il est souvent évacué, alors soit par un trop-plein de précautions autour du virus, soit par un excès de confiance du genre « Moi, le virus, il me touchera jamais, j'en ai rien à faire, je fais des bisous et je lèche la barre du métro. » Mais en fait, tout ça, c'est des symptômes de stress, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est en fait, on n'est pas dans notre état normal quand on réagit comme ça, c'est comme ça, hein, voilà. Donc, ce dont je vais parler dans ce billet ne m'exclut pas du constat que je vais faire, hein, je tiens à le dire. J'ai sans aucun doute participé aussi en partie à des choses que je vais souligner dans ce petit billet que je vais vous faire. Voilà.
Tu n'es pas pur?
Non, et la pureté c'est chiant. Donc voilà. Donc au-delà de ça, nous avons vécu une période donc de confinement, c'est-à-dire un moment où nous sommes retrouvés à devoir nous enfermer. Alors parfois seuls, parfois à plusieurs, mais en tout cas, nous n'avons que rarement connu des périodes aussi longues où nos mouvements ont été entravés à ce point. Nous les riches, nous dans les pays riches, nous les gens qui n'avons pas connu la prison, nous les gens qui ne sommes pas malades ou qui ne sommes pas enfermés dans des hôpitaux. Là, je parle des gens qui vont bien, d'habitude, et pour qui tout se passe bien. Parce que très clairement, il y a aussi ce paradoxe-là, c'est que j'ai beaucoup entendu de gens se plaindre en oubliant qu'il y a des gens qui vivent ces confinements-là ou ces enfermements-là de façon assez violente et régulièrement. Et eux, c'est leur vie. Donc je me dis, des fois, il faut aussi, non pas, comme diraient certains, faut relativiser. Non, parce que c'est pas ça l'idée, mais il faut pas oublier qu'il y a des gens, là, aujourd'hui, ils sont toujours pas déconfinés, eux, parce qu'ils sont enfermés. Voilà. Donc je parle bien entendu en gros pour les pays riches, hein, aussi, parce que les pays pauvres, eux, ils ont des guerres et des épidémies assez régulièrement, donc ils sont habitués, bizarrement, à faire des confinements. Voilà. Donc, juste, je voulais souligner ça. Alors, face à cela, il y a des espoirs qui sont nés. Hein. Ce confinement, ça allait être un moment le plus prolifique pour changer, s'interroger, penser un après différent, philosopher, trouver un nouvel humain plus beau, plus propre, plus... Ah bon, genre, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on repasse L'Homme qui valait 3 milliards à la télévision. Hein. C'est pour donner l'impression qu'on peut transformer l'être humain en permanence. Voilà. Alors, selon même certains courants politiques de la collapsologie, en passant par une bonne partie des révolutionnaires, tout allait s'effondrer pour mieux renaître. Hein, voilà, du passé faisons table rase, en oubliant un petit passage de cette chanson que je reviendrai dessus. Et le capitalisme ne pouvait pas survivre et on allait voir ce que l'on allait voir. Hein, voilà. Bon, bah, c'est un vieux reste de marxisme millénariste, hein, donc voilà, mal digéré hein, au fond, hein, parce que voilà, il y a encore des gens qui croient que le capitalisme va s'effondrer de lui-même, et qui, plutôt que de lutter pour sa fin, attend patiemment que le capitalisme s'effondre sur lui-même. Voilà. Bon, bah, continuez à attendre, les gars. Comme le berger, un petit peu, face à sa rivière, qui, pour la traverser, attendrait qu'une pierre tombe pour en diminuer le courant. Elle est belle, hein, cette allégorie. Voilà. Et pourtant, si on l'observe, et encore une fois, je regarde ce qui m'entoure, hein, je ne suis pas en train de faire une étude sociologique mondiale sur des millions de cas, je parle des gens qui m'entourent, de mon quartier, tout ça, tout ça. Force est de constater que ce moment de repli a été vécu comme une pause, une simple pause que l'on a su agrémenter pour mieux la digérer et la surmonter. Il n'y a rien de honteux à ça, hein. C'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est vécu, c'est pas grave. Parce que oui, une angoisse est née, et elle est légitime. Celle de ne rien faire, de se retrouver seul face à soi, de devoir agrémenter ses journées avec autre chose que la contrainte du travail et du rythme que celui-ci nous impose. C'est ça qui a été majoritairement ressenti. Alors bien sûr, évidemment, les gens qui n'ont pas de travail, ou les gens qui ont... Ils n'ont pas ressenti la même chose. Mais la majorité des gens ont ressenti cette espèce d'effet de se dire « Là, il faut que je prenne un pas de côté. Ben, qu'est-ce que je fais de mes 8 heures ou 10 heures par jour que je gagne, là, en fait ?» Vous voyez ? Donc une nouvelle opportunité en fait s'est ouverte, mais désolé, mais c'est plutôt pour le capitalisme hein, que cette nouvelle opportunité s'est ouverte. Je vais pas refaire ici une sortie sur le télétravail, on a déjà consacré une bonne part de l'émission du 10 mai 2020, la 345e de la causerie. Oui, tu peux aller sur le blog l'écouter.
J'aime cette précision.
À son avènement et sa mise en place à grande échelle. Hein, du télétravail. Et nous avons déjà, non pas de la causerie, parce qu'on va dominer le monde, mais c'est pas tout de suite. Je parlais du télétravail.
Mais voilà. C'est pas en télétravail qu'on dominera le monde.
Non, enfin. C'est pire, c'est par la radio. Et nous, on a déjà souligné en quoi l'opportunité offerte au patronat de revenir au cœur de nos vies a été saisie goulûment, sans hésiter, et je vous invite vraiment à réécouter cette émission pour compléter le constat que je vais dresser en plus là, parce que ça va avec en fait en réalité. Voilà. C'est un constat évidemment subjectif, hein, parce que l'impartialité n'existant que chez ceux qui pensent détenir une vérité absolue, comme c'est pas mon cas, je suis parfaitement subjectif. Voilà. Très vite, face à la pandémie, les traditionnels acteurs de la santé privée sont sortis du poids et ont commencé leur danse du ventre pour avoir des subsides des États, pour ne pas financer leurs recherches, mais engranger les futurs profits, évidemment. Rien d'étonnant et de neuf là-dedans, hein, le capitalisme industriel habituel, et qui n'a pour vocation que la privatisation des profits, mais une socialisation des pertes. Faudrait peut-être pas déconner quand même. Hein. De ce constat, en tout cas, n'est chez moi une conviction. Si nous ne pensons pas à l'échelle de la planète des outils de santé déconnectés du capitalisme, de la fabrication du médicament et à sa délivrance, hein, c'est vraiment toute la chaîne de la santé, bah nous ne pourrons jamais garantir un accès juste et selon les besoins des populations à des traitements utiles et salvateurs. C'est un fait, en fait.
Oui, évidemment, le penser de manière mondiale avec des gens de partout dans le globe.
Ah ben oui,
il ne s'agit pas d'être dans une démarche colonialiste, d'aller imposer la santé à qui. Mais je pense que des gens qui ont envie de se soigner, ça existe à travers le monde.
Bah, j'ai une pensée, par exemple, pour une partie de l'Ouest africain aujourd'hui qui n'a pas accès au vaccin contre la rougeole, hein, et qui voit des milliers d'enfants mourir. Et en fait, bah, eux, ils n'ont pas accès juste parce qu'il n'y a pas de moyens.
C'est ça.
Parce qu'il y a des stocks, vous voyez. Donc, c'est ça qui est assez terrible. Voilà. Les dernières sorties du PDG de Sanofi hein, sont un bel exemple du cynisme qui anime ces sociétés pharma. Hein, avec, si tu payes en premier, bah, tu auras les vaccins en premier. Voilà, on se croirait dans une cour d'école.
Ça s'appelle du capitalisme. Et on peut vite fait, enfin, en tout cas, je veux vite fait le rappeler, quand on parle d'une entreprise comme Sanofi, c'est une des premières entreprises du CAC 40.
Ouais,
c'est
la deuxième.
Deuxième du CAC 40 qui fait à peu près 9 milliards de bénéfices par an.
Ouais. En dollars, en tout cas.
En dollars, évidemment. c'est là où on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de leur filer de la thune, en fait?
Parce que c'est une PME qui a des grosses difficultés. Je ne mets pas à la place.
Ah oui, pardon, excusez-moi.
Voilà.
Donc voilà, non, c'était juste une précision parce que.
Et puis je précise que ce qui est valable pour Sanofi est valable pour Merck, Pfizer et toutes les autres grandes big pharma. Faut pas rêver tout le monde à ce discours-là pour aller chercher des subsides. Mmh. En fait, c'est pour avoir du pognon et c'est pour qu'en fait la recherche leur coûte le moins possible parce que de toute façon, ils savent qu'ils vont fournir le médicament et que même s'ils le fournissent, disons, en faisant 2 ou 3 centimes, de bénéfices par dose et sachant qu'on estime que lorsque le vaccin sera trouvé, il y aura à environ 4 milliards d'êtres humains à vacciner. Je vous laisse faire le calcul. Voilà.
Ça fait quelques milliards de centimes, quoi.
Voilà. Exactement. Mais au-delà de ces traditionnelles multinationales, on a pu voir émerger des nouveaux acteurs du capitalisme mondial et ceux, en fait, qu'on commençait à voir, c'est tous ces acteurs des réseaux sociaux et des sociétés qui fournissent des moyens de se voir en vidéo collective. Ça s'est vraiment accéléré dans cette période de pandémie. Les réseaux sociaux, en incitant à rester ensemble en partageant ce qu'on fait, hein, c'est quand même la base d'un réseau social, je vous le rappelle, comme les innombrables photos, hein, par exemple, de pain fait maison, hein, ou de tenues faites maison ou de choses comme ça, mais aussi au travers des fameux défis lancés entre les utilisateurs des réseaux sociaux. Apprends la chorégraphie, fais un double salto arrière, apprends à ton chat à jouer du nunchaku, voilà. Et en fait tout ça, en fait, ça a servi à ce qu'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux finalement. Et que le temps qu'on aurait pu effectivement utiliser autrement, hein, dans cette période-là. Et encore une fois, je n'ai pas de jugement, je ne fustige rien, c'est un constat, c'est pas grave, c'est comme ça. Ce temps, on l'a plutôt passé à enrichir Mark Zuckerberg et compagnie. Voilà. Et d'ailleurs, il a été démontré qu'un tiers des défis, les fameux défis dont je parlais, ils étaient le fait de sociétés de communication liées à des marques. Et notamment le fameux défi du presse une orange le plus rapidement possible, qui a été lancé par une marque d'orange. Justement, ça n'est pas illogique, hein, quand on y réfléchit.
De toute façon, oui, voilà. Ils ne sont pas devenus non plus complètement...
Oui, et moi j'ai découvert qu'il y avait une marque d'orange. D'orange, du fruit, hein. Il y a un fruit qui est déposé, qui n'existe, c'est en Californie, voilà. Ouais. C'est une marque d'orange. Ouais. L'idée, en fait, c'est que nous passions donc le plus de temps possible connectés au réseau. Et ça a marché parce que Facebook, Instagram et TikTok, hein, ont vu leur nombre d'abonnés augmenter, mais aussi le nombre de temps moyen passé sur l'application, qui a augmenté. Pour TikTok, par exemple, dont on avait aussi parlé dans le confinement, et j'ai oublié de noter quand, donc vous chercherez. Il semble que c'est dans la même émission que le télétravail,
c'est
d'ailleurs.
Possible.
Donc voilà. Il semble que cela tourne autour de 50% de temps en plus passé sur l'application en moyenne par utilisateur. C'est énorme, hein, 50% de temps. Et 35% pour Facebook. Ces chiffres n'ont pas été confirmés par Facebook et TikTok, qui refusent de donner les chiffres exacts. Alors pour une raison simple, en fait, c'est qu'il y a une action de groupe qui a été lancée aux États-Unis pour dire qu'ils avaient profité injustement de la faiblesse des utilisateurs. Vous voyez ? Et c'est pas forcément faux, hein, quand on y réfléchit. Ouais. C'est-à-dire que les gens étaient dans un état de stress, donc en fait, ils ont profité de cet état de stress, donc ils refusent de donner les chiffres. Du coup, tant que cette action, on saura si oui ou non, elle ira au bout. Pour les fournisseurs de moyens vidéo, ça a été la culbute. Alors, il y en a un que personne ne connaissait, à part les gens qui travaillent dans les entreprises qui avaient ça, c'est Zoom. Zoom, avant, personne ne connaissait ce nom-là. Ouais. Aujourd'hui, vous faites des apéros Zoom, parce que Skype, ça marchait pas très bien. Et Zoom, ça marche vachement mieux. Bon, ok, c'est un peu de la pub ce que je fais, mais en fait, en réalité, c'est ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce que les gens disent. Et c'est aussi une réalité de terrain. C'est-à-dire que les gens ont plutôt utilisé ce qui fonctionnait mieux. C'est-à-dire, voilà. Et Zoom, donc, a multiplié par plus de 20 ces nombres d'utilisateurs enregistrés. Skype s'est mis à renaître de ses cendres, c'est-à-dire que Skype qui était en train de disparaître, bon, pouf, il est réapparu. C'est Microsoft qui est content. Talky, un petit nouveau, hein, qui est arrivé, qui était un truc en ligne, bah lui, pouf, il a explosé lui aussi son nombre d'utilisateurs. Et les outils libres, même les outils libres, c'est-à-dire ceux qui sont mis à disposition et qui sont sur des open source, comme on dit, bah, ils ont vu exploser le nombre d'utilisateurs, notamment Framatalk, par exemple, qui a même saturé, ce qui était la première fois de son histoire, le nombre de personnes que ça. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait les gens qui faisaient des apéros, puis il y avait les profs qui donnaient des cours à distance.
Hein. Ah oui, enfin, Frama, ils ont même leur plateforme d'échange, enfin de transfert de pièces, etc., de documents, qui pareil a planté un peu, ils ont dû redispatcher sur d'autres structures, etc.
Ouais, il y a vraiment eu un engouement en fait pour tous ces outils-là. Alors, faut pas oublier que c'est autant de données personnelles utilisables et à revendre, hein, pour la plupart, sauf pour les logiciels libres. Je le rappelle. Donc, essayez d'utiliser du libre. Bon, moi, je vous dis ça comme ça. Et donc, c'est les fameuses métadonnées. Donc autant d'utilisateurs futurs aussi qui vont rester captifs, parce que on sait que quand on commence à utiliser un outil et qu'on le maîtrise, ben on va pas voir ailleurs. Salut Georges. Voilà. Les livreurs aussi ont tourné. Les livreurs, je parle des gens qui livrent chez vous. Hein. Voilà, pas, c'est pas un truc informatique. Là, je passe à un autre sujet. Et Amazon, en fait, a vu la demande de livraison augmenter comme jamais dans l'histoire de la société. Alors pourquoi je prends Amazon ? Parce que je rappelle, Amazon, c'est 50% des biens vendus dans le monde aujourd'hui. Donc forcément, quand on parle d'augmentation des livraisons, on parle forcément d'Amazon.
Ah bah oui.
Désolé. Ce qui fait que Jeff Bezos est un des leaders à la course du détenteur d'une fortune estimée à 1000 milliards de dollars d'ici 2026, aux côtés de Mark Zuckerberg et Bernard Arnault, et quelques autres. Voilà. Il est content, Jeff.
Ouais, enfin, ils peuvent se racheter des pays, quoi. Hein.
Ben, 1000 milliards, c'est-à-dire que c'est beaucoup.
Ah non,
c'est
mais
plus
oui,
que
oui.
le PIB de la plupart des pays européens.
Ah, mais...
Alors, voilà, pour, voilà.
C'est une blague, mais c'est pas fou ce que je dis.
Oui, oui, tout à fait. Les ventes du leader international de la supply chain, hein, comme il s'appelle, je rappelle, la supply chain, c'est le fait de livrer de A à Z. C'est-à-dire, vous avez le produit, vous livrez le produit, vous arrivez au consommateur final. C'est ce qu'on appelait avant la logistique. En
oui, c'est ça, ils font pas que voilà. de la vente, ils font
que de la vente.
La vente plus la logistique, le transport, etc.
Avec un petit plus. Voilà, comme il se définit, hein, donc j'ai augmenté de 220% à New York et de 95% en France et 135% à Londres. Ouais. Voilà. Donc on voit qu'en fait, Amazon a donc fait en 2 mois de confinement le chiffre d'affaires qu'il espérait sur l'année dans plusieurs points du globe. Ah, voilà. Dire que certains parlaient d'un moment où les gens ne consommaient que ce dont ils avaient besoin. Ça, j'ai vu beaucoup passer ça sur les réseaux sociaux. Ah, l'économie s'effondre quand les gens ne consomment que ce qu'ils ont besoin. Bah non, ils ont juste consommé autrement. Les gens sont passés par Amazon. Hein. Donc c'est un aveuglement des nouveaux modes de consommation qui vont jusqu'à se marchandiser soi-même. Et hop, là je reviens à mon TikTok et compagnie où on a fait des défis. T'as vu ? La boucle est bouclée. Non, mais... On bosse, hein.
Surtout toi, ce soir.
D'autres acteurs, hein, les fournisseurs de divertissement, ont vu leur chiffre d'affaires faire la culbute. Netflix a vu son nombre d'abonnés bondir de 16 millions dans le monde. C'est énorme pour Netflix, hein, voilà. Plus 1,2 million d'utilisateurs en France.
Ouais, c'est
en
pas...
2 mois.
Ouais. Hein, ah, c'est ça, oui, c'est ça.
En 2 mois, je vous le rappelle.
Netflix en 2 mois. Ouais.
210 millions en tout d'utilisateurs dans le monde maintenant, Netflix. 210 millions. C'est-à-dire qu'en fait, Netflix a autant que d'adultes aux États-Unis en utilisateurs.
Ouais.
Ouais, et ça, ils espéraient y arriver dans 5 ans. Voilà. Amazon Prime, 21 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc voilà, plus 900 000 en France. 98 millions en. 21 millions d'utilisateurs en plus, pardon, et 98 millions en tout. C'est-à-dire qu'en fait, Amazon Prime, ils ont fait une culbute de plus 50% quasiment. Et Disney Plus, en se lançant. Ah, j'ai un problème de son, je suis désolé, j'espère que vous m'entendez, parce que
ouais,
moi je ne
t'entend.
M'entends pas. Alors, c'est un peu.
On t'entend.
Désagréable, pardon, voilà. Oui, je disais, pardon. Oui. Et donc, du coup, Disney Plus, en se lançant en plein confinement mondial, s'est assuré une base solide d'abonnés estimée déjà à 100 millions. C'est-à-dire qu'en fait, Disney+, en se lançant en plein milieu du confinement mondial, il a rattrapé quasiment Netflix, ce qu'il espérait faire, en fait, il a fait 5 fois le lancement de Netflix, pardon. Voilà.
Là, on sent bien quand même la chute du capitalisme.
Ah ben là, le capitalisme, il s'en est pas remis. Hein. D'ailleurs, ces 3 sociétés pèsent maintenant, elles seules, 11 milliards de chiffre d'affaires, hein, quand même, pour un bénéfice cumulé estimé à pas loin de 2 milliards, mis bout à bout. Tout va bien. Voilà. Donc c'est l'illusion du choc comme méthode de lutte, hein. C'est ça là où je voulais en venir. Si je vous parle de tout ça, c'est que trop d'acteurs des luttes sociales, révolutionnaires ou non d'ailleurs, s'imaginent qu'il suffirait d'un choc mondial se produise pour que tout soit remis en cause et que le monde change en mieux. Telle une espèce de conscience interconnectée entre les êtres humains. Voilà, c'est Panchamama, tout ça.
Bah, et puis il y a presque un truc religieux, quoi.
Ah bah,
c'est-à-dire que c'est le retour du Messie, enfin, tu vois.
Alors, pour moi, non seulement c'est millénariste et religieux, mais en plus, c'est imaginer que tous les cerveaux humains seraient connectés pour penser la même chose au même moment.
Mais ils n'ont pas mis des puces 5G pour ça dans nos cerveaux pour qu'on pense tous la même chose au même moment.
Je trouve que c'est juste flippant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a un biais de vision, mais qui est terrible. Les êtres humains, heureusement, sont des individus et que chaque individu pense encore à peu près librement, heureusement. Parce que franchement, enfin voilà. Donc là, il y a cette idée qu'on serait interconnecté, machin et tout. Voilà, bon. Et en fait, ça marche pas. je suis désolé, hein, je veux pas vous casser le moral, mais un peu. Ces mêmes personnes sont tombées en fait de leur chaise quand en Allemagne, en Hongrie, aux USA et au Brésil, ils ont vu des manifestations contre les mesures de sauvegarde sanitaire qui ont émergé, et y compris avec des gens armés. C'est-à-dire des gens qui sont arrivés armés, où on avait une vraie forme de fanatisme armée, vraiment, voilà, qui détournait même les slogans progressistes tels que « Mon corps, mon choix ah, ». Si je veux mourir du Covid, c'est mon problème. Ouais, ok, super. Gens qui n'ont toujours pas compris qu'une maladie, ça se donnait aussi. Voilà.
Donc, ouais. Ouais, c'est ça.
Et c'est pas, t'es pas tout
c'est
seul.
C'est pas juste toi, hein, parce que finalement, bon. Si c'était le cas, vous pourriez faire ce que vous voulez.
Ah, mais si c'était le cas, allez-y. Hein.
voilà, moi, si ça donnait une augmentation des morts de ces gens-là, voilà. Bon, bah, tant
mais
pis,
bon.
Hein.
Alors, pour justifier que des gens meurent au nom de l'économie triomphante, parce que c'était ça leur message, en fait, en réalité. C'est l'économie avant l'humain, c'est l'économie avant le vivant. Mmh. Et en réalité, on a vu émerger des gens qui sont allés défendre ça en manifestant ou en bloquant des parlements. Dans plusieurs États américains, ouais. En rentrant armés dans des parlements pour exiger qu'on abroge les lois qui demandaient à ce que les gens restent confinés.
Alors après, enfin, je sais pas si tu avais prévu de le dire, mais c'est pas non plus une majorité. Hein. Non, enfin,
je dis, faut alors pas... attention, je dis pas que c'est une majorité. J'ai juste qu'ils existent et que cette forme-là, on l'avait jamais vue à ce point-là. Et que en fait, il y a plein de gens qui ont découvert que bah oui, il y avait dans le spectre opposé en fait des humanistes, des gens qui détestent la vie. Voilà, tout simplement. Donc on a pu mesurer à quel point notre amour de la vie, qui est tout à notre honneur hein, globalement, eh ben n'est pas facilement opposable à ceux qui la méprisent. Parce que c'est pas si simple de les arrêter, c'est pas si simple de s'opposer à eux, et voilà, il le démontre là. Comme l'expliquait très bien Naomi Klein hein, dans la stratégie du choc, et attention, là je vais vous renvoyer à la 11e causerie du 19 mai 2013 wow. Et à la 129e du 29 novembre 2015, les gouvernements et les tenants du capitalisme, le patronat en fait, et tous ceux qui font commerce sur la vie des autres en la méprisant, je suis désolé, je ne m'entends plus. Voilà, c'est mieux comme ça.
On s'entend.
Oui, mais je suis désolé, c'est Canu. Il y a des trucs qui marchent pas des fois. Pardon. Voilà, je m'entends, ça va mieux. Donc, comme je disais, Naomi Klein, je soulignais, tous les gens, les tenants du patronat et compagnie, en fait, ceux qui font commerce de la vie des autres, en la méprisant au plus haut point, seront toujours mieux armés que nous pour appliquer une stratégie du choc. Et pour cause, parce qu'en fait, eux, ils l'attendent presque. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui les dérange. C'est quelque chose qui savent gérer. Quand il y a un accident industriel. Par exemple, bah, y a rien de meilleur communicant qu'une multinationale. Hein. Oui, elle sait communiquer, elle sait faire en fait quand elle est dans ces contextes-là.
Ils savent se l'approprier et en tirer bénéfice.
Exactement.
C'est ce qui fait qu'ils ont toujours un pas d'avance. Au moins sur nous, évidemment.
C'est ça. Et ça va dans le sens d'un renforcement de leur puissance et de la protection de leurs intérêts, finalement. Ce n'est pas dans ces phases actuelle que nous devons, nous autres, qui vont changer le monde, construire les choses. C'est pas maintenant. Parce qu'en fait, on sait pas faire dans l'urgence. On va savoir créer des petites solidarités et elles seront plutôt positives. Je suis pas en train de dire que rien ne s'est fait, que tout est acheté ou machin. Non, il y a des solidarités qui se sont créées, il y a des choses qui ont existé, il y a des gens qui sont allés nourrir des gens qui pouvaient pas... Tout ça a existé, il y a pas de problème. Mais encore une fois, on a fait de l'urgence, on a fait du rattrapage du système capitaliste, finalement. Et c'est très bien, il faut que ça existe. Attention, je suis pas en train de fustiger ça. Mais il faut pas nous rassurer avec ça, parce qu'en réalité, on a fait que pallier au problème, mais on n'a pas changé la cause du problème. Vous voyez, c'est ça la différence. Et nous pouvons que constater que notre manque de capacité à nous aujourd'hui, dans une phase de peur et de violence, bah, c'est d'arriver à être entendu et à faire émerger un autre possible que celui de l'autoritarisme et du contrôle des foules. Je suis désolé de le dire, mais le constat est quand même à voir, et il est là face à nous. Aujourd'hui, il y a une acceptation globale du contrôle. Voilà. Et de l'autorité. Parce que les gens sont prêts à laisser de côté une part de liberté au nom de la sécurité. Et je peux pas en vouloir aux gens. Parce que voilà. Parce que on n'a pas un discours audible où on n'a pas su arriver au bon moment.
Mais c'est surtout pas dans des moments de crise, où c'est-à-dire que...
Oui, je parlais bien au moment de crise.
Mais où plein de choses se cassent la gueule. Enfin, je veux dire, les gens qui ont plus de taf, qui ont plus de ceci, plus de cela. C'est pas dans cette période-là que d'un coup ils vont se dire tiens, on pourrait monter un réseau d'entraide solidaire.
Exactement.
Non, en fait, c'est tout le problème, mais c'est notre problème à nous, en fait. C'est que tout ça, évidemment, si on l'a pas structuré avant, ça rejoint ce que tu dis, c'est que oui, on va le faire dans l'urgence et c'est très bien. Mais sauf que les gens vont pas y adhérer, je veux dire.
Non,
c'est ça. Et même tant mieux, ils vont l'accepter,
l'aide. On n'ira pas au bout dans l'urgence. On va faire de l'aide, mais on va pas faire du changement.
Non.
Et c'est pas grave en soi, mais c'est un constat. Alors non, hein, je suis pas pessimiste. Hein. Faut pas croire ça.
Non,
mais je suis pas pessimiste. La leçon que je retiens de ce moment si particulier, c'est que nous devons chaque jour être dans le passage d'idées. Parce qu'il faut pas attendre des événements ou des choses comme ça, que nous devons faire exploser nos petits ghettos militants confortables pour aller se confronter à des gens qui n'ont pas l'habitude de nous voir. Nous, ou de discuter avec nous. Et que si on veut changer la société, l'avoir évolué vers du mieux, on n'a pas le choix. Je suis désolé, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ce que doit nous apprendre cette période, c'est qu'en fait, on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que nos outils, nos vieux outils du 19e siècle, du groupe révolutionnaire que les gens vont venir rejoindre spontanément, ça marche plus. Donc, il va falloir aller chercher, il va falloir aller voir les gens. Parce qu'on ne fait plus trop rêver non plus avec la révolution.
Non, et puis je pense
mais
que
c'est pas grave.
C'est un avis, je ne l'ai pas étudié historiquement, etc. Mais je pense que aussi des choses se créaient à l'époque dans les lieux où les gens étaient. C'est-à-dire oui. que le syndicalisme était fort parce que les gens, à leur taf.
Parce que les gens y adhéraient.
Mais oui, non, mais je veux dire, c'est ça. Et aujourd'hui, quand même, il faudrait là. Les adorateurs de la sociologie, peut-être faire un peu des études sociologiques de nos milieux militants. Je suis pas sûr que ça soit à l'usine qu'on les retrouve, quoi.
Eh ben, ça fait un bon pont avec ce que j'allais dire juste après. C'est qu'en fait, moi, je suis pas en train de fustiger, dire qu'on fait tout mal. Je suis juste en train de dire que ça doit nous interroger, qu'on doit s'interroger sur nos façons de faire. Par exemple, nos postures, elles sont souvent vécues comme pédantes, souvent malsaines vis-à-vis de nos semblables. Elles ne peuvent en fait finalement que renforcer le pouvoir de nos ennemis. Et quand je parle de posture, c'est voilà, on doit arriver à prendre, à porter clairement le droit à chacun d'être ce qu'il souhaite. Mais tout en restant connecté aux autres et ne pas chercher à imposer une façon d'être en permanence comme premier lieu. Que la liberté ne se résume pas à consommer, certes, mais que fustiger les consommateurs en les traitant d'imbéciles, c'est ce qu'il y a de mieux pour les éloigner de nous. Alors je vais vous donner un petit exemple. J'ai vu circuler une photo et des vidéos de gens qui allaient au McDonald's, et parce que les McDonald's y rouvraient. Puis d'ailleurs, il y a même un dessin de plusieurs dessinateurs qui ont fait des dessins là-dessus en disant « Oh là là, machin, et les pauvres, oh, qu'est-ce qu'ils sont cons, ils vont au McDo dès que ça rouvre. » Ben, en fait, je vais juste vous rappeler un truc. En France, il y a 55% des gens qui partent pas en vacances et où le seul plaisir de leur gamin, c'est d'avoir un Happy Meal par mois. Alors ça peut peut-être vous faire un peu bizarre à vous qui avez les moyens de vous payer de la bouffe bio dans des trucs, comment on appelle ça, en vrac, d'avoir vos petites sociétés qui vont bien.
Ouais, voilà. Ou qui trouvaient votre épanouissement dans le cinéma d'auteur et dans les... Non mais voilà. Je veux dire, c'est pas en fait, grave en soi, mais c'est juste, généralisez pas votre situation.
Et encore une fois, je fais partie des gens qui peuvent se payer de la bouffe bio et des choses comme ça, je le dis clairement. Mais moi, quand je vois ça... Et quand je sais d'où je viens, je me dis, il y a un moment donné, mais vous vous rendez pas compte de la violence de ce que vous faites. Et les gens, ils vous voient sur les réseaux sociaux, ils voient ce que vous partagez, ils voient la façon dont vous parlez d'eux. Et quand vous les montrez du doigt juste parce que vous trouvez complètement imbécile, qu'au bout de 2 mois, en fait, il y a un père ou une mère de famille qui a décidé d'aller chercher pour son gamin un Happy Meal, c'est que vous avez toujours pas compris ce qu'était la pauvreté. Donc, posez-vous donc des questions de ce que c'est. Et de ce que ça représente, en fait, pour un gamin d'avoir un petit Happy Meal dans un... Oui, j'ai fait beaucoup de pubs, pardon. Mais dans sa vie. C'est con, peut-être pour vous, ça vous paraît peut-être con, mais pas pour ce gamin en fait. Donc j'aimerais juste des fois que vous preniez le pas de recul, de vous dire, bah non, ils sont pas idiots. Peut-être en fait c'est le seul plaisir qu'ils ont. Vous voyez, c'est bête, c'est comme ça. Et que oui, quand on part pas en vacances, quand on n'a pas la chance de voyager, quand on n'est pas habitué à prendre le vol EasyJet pour aller faire un truc pas trop cher et louer un Airbnb à l'autre bout du monde, aux Maldives, ben en fait, bizarrement, ben, des fois notre seul plaisir c'est d'acheter 3 francs chez Zara. Voilà. Alors ouais, c'est peut-être pas bien, on va continuer à les montrer du doigt, il n'y a pas de problème. Ne vous interrogez surtout pas de savoir si eux, ils vont partir en vacances ou pas, s'ils auront les moyens de se payer un gîte avec jacuzzi ou pas, vous voyez, par exemple, pour leurs futures vacances. Voilà, c'est ça que je voulais juste dire ce soir. C'est ça, la posture. C'est ce genre de choses-là.
Mais voilà. Ça rejoint évidemment ce que je disais avant, c'est cet embourgeoisement finalement d'une partie du milieu militant qui est un réel embourgeoisement, qui plus est avec cette lecture hautaine et méprisante. C'est la meilleure représentation du bourgeois, quoi.
Bah ouais. Et moi je le dis parce que franchement, si vous pensez que le petit gars qui va chercher, ou la petite nana d'ailleurs qui va chercher son McDo, il est plus grave et plus impactant pour la planète que Bernard Arnault ou Mark Zuckerberg, c'est que vous avez vraiment perdu de vous rappeler qui étaient vos ennemis. Bref, le capitalisme et c'est étonnant, ont su malheureusement nous démontrer une fois de plus leur capacité à s'adapter rapidement à n'importe quelle crise, même à une crise mondiale qui a mis en pause 3,5 milliards d'êtres humains dans le monde, soit la moitié de l'humanité. Et ça, si ça ne vous démontre pas la flexibilité et la capacité d'adaptation du capitalisme, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
Voilà. Et surtout qu'en plus, avec les chiffres que tu donnais au début, on voit bien cette adaptation.
Ah bah, tout à fait.
C'est-à-dire qu'évidemment, Air France se casse la gueule, mais à côté de ça, Netflix fait un bond de dingue.
Exactement. Ça s'appelle des reports de capitaux.
C'est
juste ça. Si nous continuons à attendre qu'il trébuche de lui-même, le fameux capitalisme, nous sommes condamnés à le subir sans jamais oser le dépasser, l'exploser, le détruire, faire autre chose et faire autrement. Comme le démontre très justement George Miller. Oui, j'avais envie de citer un grand philosophe, George Miller. Non, pas le gars qui est à la télé, le mec qui a réalisé les Mad Max. Oui, parce que bon, à un moment donné, faut pas déconner.
Culture populaire.
Ah ouais, mais regarde, mais regardez donc Mad Max, parce que les Mad Max, ça va vous apprendre une chose, c'est que même quand il y a la fin du monde, ce sera une source de profit pour certains et une source d'asservissement pour d'autres. Et ça, c'est ça que j'aimerais que vous rappeliez. La culture populaire, elle est pas toujours dégueulasse, elle nous apprend des trucs. Donc regardez donc Mad Max, regardez un petit peu les trois, puis le quatrième qui a été fait, qui est très bien d'ailleurs, Fury Road. Et puis vous allez comprendre un petit peu et vous dire, ah ouais, en fait le capitalisme, même quand c'est la fin du monde, eh ben celui qui détiendra le pétrole, eh ben il continuera à être le plus riche. Eh ben c'est ça en fait. Et ce, tant que nous ne comprendrons pas nous collectivement que c'est notre capacité à cesser d'avoir peur d'être que naîtra en fait en premier lieu notre liberté et non pas l'inverse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait il faut arrêter de se dire, ah ben oui mais non, mais là on a besoin de sécurité, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Il faut pas se dire que c'est mal d'avoir envie d'être en sécurité, mais il faut rappeler aux gens sans cesse que c'est de notre liberté collective que naîtra notre sécurité et non pas de notre sécurité que naîtra notre liberté. C'est ça qu'il va falloir répéter, que vous entendrez plein de fois dans la causerie bleue, puis ça vous emmerde, vous n'avez qu'à pas écouter.
Il faudrait déjà être tout le monde ne porte pas ce propos non plus quoi.
Non mais je dis ça parce que c'était pour faire une boutade et rigoler un petit peu parce que je suis un peu lourd, je le sens. Alors il faut ouvrir les savoirs, offrir à chacun la capacité de comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qu'est une pandémie aussi, parce qu'on a plein de gens dans nos milieux qui sont scientifiques, qui sont ceux-ci, qui sont ceux-là, eh ben, laissons-leur, créons un petit peu des espaces de débat, voilà, ça évitera le confusionnisme et la peur et le, comment dire, ce qu'on appelle la peur bête. Alors ça porte ce nom-là, j'aime pas forcément cette expression, mais c'est quand d'un seul coup on se réfugie dans ce qui est le plus pratique et ce qui nous rassure le plus vite, et puis souvent c'est souvent pas ce qui nous libère. Voilà, tout simplement. Et voilà. Il faut qu'on réfléchisse à comment combattre tout ça.
Oui, oui.
Voilà.
Ben, en même temps, ça me fait repenser à un truc. C'est une des premières émissions qu'on avait fait avec Georges autour de l'astronomie. Enfin, il y a un peu cette envie de donner des outils, de comprendre c'est notre environnement finalement même très lointain. Un des premiers commentaires, c'était quand une émission sur l'enculage de mouches.
Oui.
Donc même parmi les auditeurs de cette radio tellement rebelle, en fait on a quand même des gens pour qui le matérialisme, les sciences, c'est de la merde. Et quand vous prétendez révolutionnaire ou je ne sais quel autre mot qui est super sympa et tellement il arrache, mais que vous êtes contre les sciences et le matérialisme, je pense que vous êtes plus près de ceux qui sont sur la colline de Fourvière que qui que ce soit d'autre qui vous rappellera au passé glorieux de la lutte des canuts, quoi. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se mette un peu raccord sur ce qu'on pense réellement, individuellement et collectivement, quoi.
Et moi, je vais le dire, en fait, plus vous avez de savoir, plus vous avez de connaissances, plus vous êtes réellement libre, parce que c'est du savoir et de la connaissance que naît la liberté, réellement, parce que ça permet de faire des choix éclairés, et les choix éclairés, c'est la base de la liberté. Voilà.
L'esprit critique.
Oui.
Qui permet de ne pas suivre les gourous.
Oui.
Et ils sont pas que à Marseille, hein.
Non, je voulais pas en parler.
Non, mais justement, ils sont pas qu'à Marseille, ils sont pas que dans les temples.
C'est vrai.
Les gourous peuvent être un peu partout, hein.
Et est-ce que tu nous mettrais pas un peu de musique ?
Mais bien sûr, je vais faire ça. Eh bien, allez, on se retrouve après ça.
Oye, que lijo cuido nuya, ese es amor. ούτε κολλάμε.
Radio Canu, et c'est toujours la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h.
Oui,
et nous venons d'écouter Oumu Sangaré avec le titre Mogoya, et juste pour préciser, c'est une féministe engagée malienne qu'on vous invite à évidemment découvrir, et on remercie Clara parce que c'est une proposition de Clara.
Ouais.
Et ben Fab, tu continues à
oui,
cracher.
Ouais. Pas trop, parce qu'il faut pas trop cracher en ce moment.
Non, mais il y a du film c'est sur voilà. Ton micro, donc c'est bon.
Moi, je voulais revenir aussi sur donner un exemple un petit peu flagrant de l'excuse du confinement comme moyen de pression et moyen d'oppression. Voilà. Alors, je vais pas parler de tout ça, mais je vais donner un exemple qui date d'hier. En fait, c'est la Chine, en fait, qui veut mettre au pas Hong Kong et qui se sert, en fait, de la période de confinement pour faire passer des trucs assez hallucinants. Alors, un petit retour en arrière, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça fait maintenant plusieurs mois, voire années, que les Hongkongaises et Hongkongais, dans leur grande majorité, s'opposent au régime militaro-communiste de la Chine, hein, qui a retrouvé la tutelle de Hong Kong en 1997. Voilà. Il faut se souvenir que lors de la rétrocession de la Chine par le Royaume-Uni, oui, c'est en 1997, le pouvoir de l'époque chinois s'était engagé à maintenir le système démocratique et économique de la zone de Hong Kong pendant 50 ans, soit jusqu'en 2047. Bon, Xi Jinping, il trouve que c'est un peu long.
Voilà. C'est étonnant, ça.
Alors, l'idée des Britanniques, hein, qui étaient, je rappelle, colonisateurs quand même de cet espace-là, hein, au départ, de l'île et de la presqu'île qui constituent Hong Kong, estimaient en fait que le maintien de ces deux aspects saurait donner des coups de boutoir pour que s'effondre le régime militaro-communiste de Pékin plus vite. Parce qu'en fait, à Hong Kong, les Hongkongais jouissent, ou jouissaient, plutôt d'une plus grande liberté, hein. Ils avaient le droit de vote, ils avaient le droit de se marier, de divorcer, enfin il y a tout un tas de trucs qui existaient, ils avaient surtout le droit d'avoir une opposition politique, voilà, ils avaient le droit de pas être d'accord avec le pouvoir. Ouais, vous voyez. Sauf que dans les faits, dès la reprise en main par la Chine, tout est mis en place pour que la vie politique soit faussement maintenue. C'est la création du fameux parti pro-chinois hongkongais qui va se mettre à gagner toutes les élections. Voilà, alors qu'il est minoritaire dans la population. Mais, je sais pas, il s'est passé un truc. Donc il est donc installé au pouvoir, et les élections sont maintenues, mais elles sont largement truquées, hein, c'est tout le monde le dit. Et la police est remplacée d'ailleurs, notamment trois commissaires qui étaient connus pour être des anti-régimes chinois. Ils sont remplacés pour que la police soit la plus proche possible de la police militaire chinoise. Alors, ils ont juste changé d'uniforme. Parce que les uniformes à Hong Kong sont pas les mêmes qu'en Chine. Mmh. Voilà, mais c'est les mêmes personnes qu'on a mis. D'ailleurs, il y a les Hongkongais, ils disent, c'est étonnant le nombre de Han qu'on trouve aujourd'hui dans la police. Les Han, je vous rappelle, c'est l'ethnie majoritaire en Chine, mais elle est minoritaire au départ à Hong Kong, et là, d'un seul coup, dans la police, elle est majoritaire. Donc c'est donc bien des policiers qu'on a ramenés. Voyez.
Bah, la stratégie elle est toujours un peu la même. Parce que, enfin, alors là, c'est sur les policiers,
c'est comme pour le Tibet,
c'est pareil, quoi.
C'est la vieille technique du régime chinois. Donc depuis 1997, et en fait avant, il y a un courant indépendantiste et démocratique qui émerge à Hong Kong et qui est très fort et très puissant, et qui cherche à se débarrasser de la dictature chinoise, très clairement, par des actions pacifistes, mais aussi parfois par des émeutes, des attaques, voire effectivement des meurtres ciblés, c'est arrivé, parce que ça c'est le truc qu'en ce moment la Chine dit, oui mais il y a eu des meurtres ciblés. Bon, alors je vais pas légitimer les meurtres, mais si on regarde d'un côté et de l'autre qui a tué le plus, voilà. Voilà, donc difficile de ne pas comprendre l'envie de liberté d'une population. Bon, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc le mouvement actuel, y a eu une grosse ambiguïté. Alors, Hong Kong, ça sert à la Chine de plateforme capitaliste. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, et ça c'est assez intéressant, c'est que la bourse de Chine la plus grosse, elle est à Hong Kong. Mm-hmm. Et en fait, ça sert en fait à la Chine à pouvoir investir à l'international dans le capitalisme. Oui, parce qu'ils sont communistes officiellement, mais dans les faits, ils sont capitalistes, je rappelle. Voilà. Et donc, ça leur permet de faire des investissements, notamment internationaux, et les liens avec le capitalisme mondial. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté, parce qu'il faut maintenir d'une façon illusoire les pseudo-avancées qu'il y avait dans l'enclave de Hong Kong, tout en voulant y mettre, quand même, les gens au pas. Parce que, vous voyez, c'est un petit peu le truc. Donc, faut qu'ils soient libres, mais pas trop. Faut que le marché reste libre, mais pas les gens. Vous voyez, en gros, pour faire simple. Ben en fait, il est loin d'en être de même pour la population en réalité, parce que la population, elle subit de plus en plus la pression de la dictature chinoise. Les lois sont de plus en plus liberticides, il y a des gens qui disparaissent, c'est-à-dire que là, moi j'ai cherché les chiffres, et il y a plusieurs associations hongkongaises qui disent qu'il y aurait plus de 4500 personnes qui auraient disparu. C'est pas très grand Hong Kong, hein, donc quand les gens disparaissent, on s'en rend compte quand même, vous voyez. Et on a vu émerger des camps. Alors, officiellement, ce sont des organismes de réhabilitation et de rééducation.
Ah, mais ça doit être les mêmes qu'ils utilisent pour les Ouïghours.
Comme pour les Ouïghours. Voilà. Et en fait, ce sont des camps où on enferme des gens, où des jeunes sont mis et ils ressortent. Et il y a des gens qui disent, ils ressortent de là, ils sont lobotomisés. Ah, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de goût à la vie, ils n'ont plus rien. Ils sont brisés, quoi. Donc, il y a eu plusieurs vagues de protestations, qui ont eu lieu depuis des années. Et la dernière, elle a commencé en 2019. C'est à ce moment-là que la Chine veut rendre possible le fait de pouvoir extrader n'importe quel habitant de Hong Kong pour qu'il soit jugé sur le sol chinois ailleurs. Alors, petite précision, lors de la rétrocession, il avait été noté qu'il était interdit qu'un Hongkongais soit jugé ailleurs qu'à Hong Kong. Voyez. Donc, en passant cette loi, évidemment appuyée par le parti pro-chinois, sinon c'est pas marrant, qui a été placé à la tête du pouvoir, donc c'est encore plus pratique, c'est ratifier une loi d'extradition qui aurait permis, en fait, de pouvoir prendre les fameux étudiants qui ont été les premiers à réagir, face à cette loi et face, en fait, aux oppressions qu'ils subissent. Parce qu'en fait, bizarrement, c'est autour des étudiants que va se cristalliser le mouvement démocratique. Et en fait, pour une raison simple, c'est que les étudiants, ils sont reliés au monde entier. Et donc, ils voient bien qu'ailleurs, c'est vachement mieux qu'à côté. Parce que vous voyez, c'est tout bête. Donc, eux, ils disent non, mais il faut surtout pas qu'on se fasse avoir par le régime de Pékin. Voilà. Donc, une loi d'extradition, est-elle passée ? N'est-elle pas passée ? Eh bien, c'est un beau flou artistique en ce moment, parce qu'en fait, personne ne sait si cette loi a fini par être ratifiée ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est déjà appliquée, vu qu'il y a des gens qui disparaissent. Voilà. Donc, la répression, elle est violente. Donc, des gens disparaissent, des violences policières sont signalées. Des universités sont évacuées avec une violence hallucinante. Mais il y a aussi des manifestants qui arrivent à faire reculer la police, qui trouvent des techniques contre la surveillance. C'est ça qui est assez intéressant. Qui ont un lien fort avec les manifestants, qui se créent entre manifestants pacifistes et émeutiers, comme on les appelle. Je mets des guillemets à ces deux appellations-là. Hein, voilà. Et en fait, les liens sont tissés et ça permet des actions coordonnées qui font que la Chine est obligée de reculer. Et ça, c'est quand même vachement intéressant à étudier et à regarder en face. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants, notamment en informatique, ont mis toutes leurs connaissances dans le hacking pour permettre de faire sortir des gens de la zone de surveillance par la reconnaissance faciale, par exemple. Ils ont inventé des systèmes pour brouiller la reconnaissance faciale. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est une vraie lutte pied à pied qui se met en place. Et comme il y a Internet encore à Hong Kong, et comme ils arrivent à tout filmer, et que les étudiants, et notamment, enfin, on dit les étudiants parce que c'est le mouvement, voilà, mais on va dire les gens qui luttent contre le régime de Pékin, filment toutes leurs actions 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le but, c'est qu'il y ait un flux vidéo permanent et constant qui fait que le monde entier puisse voir ce qui se passe. Et ça a l'air bête, mais c'est ce qui leur a sauvé la vie. Et ils le savent, en fait.
Et en plus, je trouve que ça vient en répondre à l'État totalitaire chinois, qui lui aussi, finalement, contrôle et filme sa population 24 sur 24, quoi.
Et voilà, on en était là quand d'un seul coup arrive le confinement, parce que le coronavirus a touché la Chine et aussi Hong Kong, et donc les gens ont dû se confiner. Et ben, qu'est-ce qui se passe quand on se confine? Ben, il y a des États, bon, c'est le cas en France, hein, mais c'est encore plus le cas en Chine, enfin, c'est le cas aussi en Chine, qui décident de se dire, ah ben, comme tout le monde est confiné, moi, je vais passer des lois d'exception. Voilà. Et donc, Beijing, la capitale de la Chine, a donc décidé de passer un décret qui permet d'imposer à Hong Kong la mise en place des lois sur la sécurité adoptées sur l'ensemble du territoire chinois, au nom de la continuité de la nation et de la lutte contre le terrorisme. Voilà. C'est beau, hein?
Ah bah oui, et puis pour celles et ceux qui ont regardé les infos aujourd'hui...
ils ont même créé des fausses preuves.
Ouais, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a des responsables chinois qui ont dit « Non mais regardez ce qu'on a trouvé dans certaines universités, hein, des explosifs, etc. »
Des détonateurs.
Des détonateurs. Créer des preuves et puis vous pouvez ensuite appliquer ce que vous voulez.
Non
quoi.
Mais clairement, tout le monde sait que c'est des fausses preuves. Il y a même quelqu'un qui a souligné que c'était, ça se voyait un truc très bête, c'est que le matériel est neuf. Et que bon bah voilà... Juste à un moment donné, c'est un peu visible. Mais voilà, il s'appuie là-dessus. Donc ces lois, rappelons-le, vont permettre en fait le fichage de toute la population, la déportation des éléments dangereux pour la nation. Hein, c'est les mêmes lois qui sont appliquées sur l'ensemble du territoire chinois aujourd'hui. Les arrestations arbitraires sans droit de recours à la justice. Pas mal, ça aussi. Voilà. Et donc, cela va de pair avec un développement technologique de surveillance dont on a déjà parlé, la fameuse reconnaissance faciale généralisée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Hong Kong vient d'être passé en 5G totalement. Je fais pas une fixette sur la 5G, mais il faut comprendre, en fait, que ça permet une évolution.
Oui, hein. c'est un outil voilà. qui va permettre...
C'est juste un outil, mais ça permet au régime autoritaire ça aussi. Oui. C'est pour ça qu'il faut interroger l'utilisation des outils. Donc le régime de Xi Jinping, il pensait que cela serait appliqué sans que personne ne se rende trop compte de la supercherie. Parce qu'il s'est dit, ils sont confinés, on va passer ça en douce, le Parlement de Hong Kong s'est réuni à 4h du matin en douce pour voter le truc, personne ne l'a vu. Et bien en fait, il sous-estimait quand même les activistes pro-démocratie qui, pendant le confinement, ont continué à maintenir la circulation de l'information, et notamment via des réseaux cryptés, et notamment des réseaux via Bluetooth. C'est-à-dire qu'en fait, ça passe d'un téléphone à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, de toute façon, il n'y a pas de cœur de réseau, vous ne pouvez pas vraiment le couper. Et c'est pas bête, hein, tout ça. Mais vous voyez, la technologie, des fois, ça marche aussi dans l'autre sens. Voilà. Et donc, en fait, dès le déconfinement, les manifestations, elles ont repris contre le gouvernement de Hong Kong, qui est illégitime, et Pékin. Enfin, Beijing, voilà. Et ça réunit des centaines de milliers de personnes. Et des centaines de milliers de personnes qui ont respecté les écarts, vous savez. Et en fait, ça fait que si vous voyez les images, parce qu'il y en a qui existent, c'est hyper apprécieux dans une manif de gens qui respectent un mètre entre les gens. Ça fait pas bloc, mais ça fait beaucoup, beaucoup de monde et sur très, très long. Voilà. Et donc, en fait, bah là, le gouvernement chinois, il a commencé un peu à flipper parce qu'il pensait pas avoir ce retour de manif. Donc, il va dire, évidemment, gazage, matraquage. Il y a même des images où on voit une camionnette de flics qui traverse la foule. On imagine bien qu'il y a des gens qui ont dû être heurtés. Donc, la résistance, elle s'organise, mais la répression aussi. En fait, c'est ça surtout qu'il faut voir. Et des leaders du mouvement ont déjà disparu. Les manifestants, en fait, ils sont réprimés extrêmement violemment. Et des inscriptions aux universités ont été annulées. Parce qu'encore une fois, la Chine voit les universités comme le cœur de la protestation. Pour l'instant, Xi Jinping retient ses chiens pour ne pas réprimer dans le sang. Et ça, cette phrase, c'est la phrase d'un leader étudiant. C'est pas moi qui parle. Et donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a une pression internationale et qu'il y a une connaissance de ce qui se passe. Et les manifestants, ils médiatisent ce qu'ils font et surtout, ils sont médiatisés. Sauf qu'ils ont une trouille bleue. Dans le contexte actuel international de pandémie, on ne parle plus de ce qui se passe à l'étranger. Et leur grande crainte, c'est qu'on ne parle plus d'eux et qu'on ne parle plus de ce qui se passe à Hong Kong et que tout le monde détourne le regard, contraint ou forcé, dans les deux cas. Et qu'en fait, bah, la Chine en profite pour, cette fois, faire un vrai bain de sang, malheureusement, et écraser la résistance hongkongaise. Donc le but de ce petit billet, il est tout bête. Hein. Relayons ce qui se passe à Hong Kong, soutenons les pro-démocraties, ne les oublions pas, et parlons-en. Voilà, c'était le seul but de ce petit billet.
On l'a déjà eu fait, et tu le refais aujourd'hui, évidemment, on continuera de le faire, parce que... Puisque l'internationalisme nous est important dans cette émission, c'est pas juste un vain mot ou un slogan. Donc voilà.
Une petite musique ?
Bah,
si.
D'accord. Ok. C'était parce que.
Oui, mais musique quand même.
D'accord. Ok. Et ben musique quand même, il a dit.
Non lo ya ova mi duelo, non viva mia ilo. Va, non vi
yen non viva tutto agbeyawo non viva tutto agbeyawo non viva bien ilo agbele tepo o bien ila bien ilo vivira na mesia me don 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 va no te va mi mia no to nace te va mi aruelo mi arue mi aroto nace no lo ya uva mi aruelo no viva mi aguilo fa no viva roto ne hace e a no lo no via no viva roto agüe yo no viva Agueyo, no viva, mia ilo, agbele tekwa wo, mia ila, mia ilo, vivida, na mesia me, don no va don, don no ne ka, no, don no va don, don no ne ka, la mia mia no du se sere, mia no wero, ne mia ku ka, no, don no va don, chi jue da.
Et vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et on vient de s'écouter Angélique Kidjo avec Lon Lon. Et c'est une petite reprise du Boléro de Ravel. Voilà. Et moi, j'aime bien parce que c'est un beau mélange. C'est du partage. C'est beau à voir. C'est de l'expansion, comme elle dirait, l'expansion des partages. J'aime beaucoup son expression. Et voilà. Et moi, j'avais envie de partager ça avec tout le monde parce que ça file la pêche. Et qu'en plus, ça met les identitaires en PLS, c'est super cool. Super
c'est
drôle.
Ça.
J'adore cette idée-là.
C'est ça. Identitaire de tous les coins du monde, tenez-vous la main et foutez-vous une balle.
Non, mais arrête de souhaiter la mort des gens, comme ça, c'est pas bien.
Ah, des identitaires de toutes sortes. Hein. Non,
c'est des idées plus que des gens.
Ouais, ça va.
Bon, du coup. Du coup,
on va s'arrêter là.
Ouais, on va s'arrêter là. Non, mais je voulais juste te dire que, comme on le disait en début d'émission, on va essayer dans la causerie de revenir avec des gens qu'on avait moins d'habitude parce qu'ils étaient loin et qu'on pouvait pas machin, et on va essayer de créer des choses. On espère que ça vous plaira et que vous aurez envie de nous suivre comme ça dans ce délire un petit peu technologique, voilà. Et puis on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Ouais, normalement c'est tout à fait ça.
Maintenant théoriquement on va revenir dans les studios tant qu'on n'est pas reconfiné, et on espère qu'on le sera plus.
Et n'oubliez pas de soutenir les artistes autour de vous.
Ouais.
Une petite pensée pour les Kings Queer, et il y en a plein d'autres.
Et plein d'autres, ouais.
Mais n'hésitez pas à les soutenir parce qu'ils sont pas tous intermittents, et même ceux qui sont intermittents, je pense qu'ils vont sentir tout ça bien passer. Quoi.
Ouais, exactement.
Voilà. Et on va se quitter avec un titre en hommage.
Ouais, un hommage. Non, c'est toujours bizarre de rendre hommage, mais c'est vrai qu'après, là, on va rendre hommage à Mori Kanté. Mori Kanté, c'était le griot électrique, comme on l'appelait. Et voilà, moi, c'est une part de mon enfance aussi, je le cache pas. Mais c'est aussi quelqu'un qui a réussi à faire émerger la musique africaine au-delà des frontières de l'Afrique, comme il le disait lui-même. Et c'est juste un des grands porteurs, on va dire, du courant comment on appelait ça, de l'afro, pas de l'afrobeat parce que c'est pas ce qu'il faisait, mais dans ce courant-là, en fait. Et du coup, je voulais lui rendre hommage. Et donc, on va se quitter avec Banquiero. Voilà, qui est un titre moins connu que Yeke Yeke qu'on entend de partout, parce qu'il a fait plein de disques. Alors c'est dommage de s'arrêter qu'à Yeke Yeke.
Tout à fait.
Voilà, tout ça.
Tout à fait.
Mais voilà, écoutez Mori Kanté.
Eh bien, on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, si tout se passe bien. On vous souhaite bon courage si vous bossez, si vous êtes à l'école ou je ne sais où. Bon courage.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Des bisous de loin, du coup.
Des bisous de loin, tout à fait. Allez, ciao.
Salut.